Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui doivent leur succès à leur rencontre avec un professeur. Après Copernic et Brassens, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai, du romancier français le plus lu au monde. Je pèse mes mots. Ouais. Guillaume Musso, qui lui aussi a eu le déclic de l'écriture grâce à un prof de français, n'est-ce pas?
Oui, Stéphane, on le voit depuis le début de cette émission. C'est fou comme tomber sur le bon prof au bon moment peut changer un destin. Moi, par exemple, en histoire géo, j'ai eu Monsieur Mortier.
Aujourd'hui, on va étudier l'Europe. Le continent en dessous, on s'en fout, c'est l'Afrique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a que des pauvres et des noirs.
Je suis pas devenu géographe. En français, j'ai eu Monsieur Pinault.
Vous avez tous jeté vos livres de Victor Hugo, car cette année, on va étudier Tintin.
Je suis pas devenu écrivain. Et puis, comme en maths, j'avais Monsieur Guirimardou.
Notez dans vos agendas qu'à partir de lundi, je ne serai pas là pendant un mois, parce que je fais le pont. Et après, je fais la grève. Et après, je pars en stage.
J'ai pas fait maths sup, maths spé non plus. Cela dit, ça aurait pu être pire, j'aurais pu tomber sur le prof de SVT de David.
Qui a dit que j'avais abusé d'une élève pendant le voyage au Mont-Saint-Michel? Non, parce qu'on est bien d'accord, elle était consentante, hein.
Et devenir comme... Enfin, bizarre, quoi. Mais le meilleur scénario, c'est évidemment de tomber sur un prof inspirant qui vous donne confiance en vous et qui vous permet d'exprimer votre plein potentiel. Car oui, Stéphane, je lis dans vos yeux le mépris qu'il est de bon ton d'afficher. Non. Quant aux facultés littéraires de Guillaume Musso, dans le petit milieu germano-pratin, Guillaume Musso avait un potentiel littéraire. C'est pourquoi, à rebours de ce qu'on attend de moi, je vais tâcher de vous démontrer aujourd'hui que Guillaume Musso a du talent.
Ça se saurait.
Voilà, chers auditeurs, résumé en une réflexion. Réflexion perfide au Roland de Parisianisme Rance, un résumé du paradoxe Musso. Il est l'écrivain français le plus lu en France, vous l'avez dit, l'écrivain francophone le plus lu au monde. L'année dernière, il a encore vendu 1,5 million de livres et pourtant, globalement, la critique le boude. Et dans les cercles huppés, confits de snobisme, dans lesquels certains autour de cette table évoluent, voire ce vôtre, son nom est carrément devenu une sorte d'épouvantail. Lorsqu'on appartient à cette élite, il est inconcevable d'avouer publiquement qu'on lit Guillaume Musso, encore moins qu'on kiffe Guillaume Musso. Et lorsqu'on vous demande si vous avez déjà essayé de lire un de ses romans, il est de bon ton de répondre
« J'étais très mal, j'ai failli mourir ».
Trêve de snobisme, Stéphane. Guillaume Musso n'est peut-être pas Stendhal. Guillaume Musso ne mérite pas ce mépris qu'on pourrait presque qualifier de classe. Et si justement en classe, notez la qualité de la transition, que le petit Guillaume va se découvrir lui-même. Né à Antibes en 1974, Guillaume Musso grandit parmi les livres puisque sa maman Paulette dirige la bibliothèque municipale. À l'âge où David s'amusait à coincer les filles dans les sanitaires du préau pour leur faire la quéquette à Chirac, Guillaume, plus introverti, passe son temps dans la réserve de la bibliothèque. Vers 10-11 ans, je passais tous mes étés dans cette réserve et je dévorais tout ce qui me tombait sous la main. C'est comme ça que j'ai découvert les hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, un choc. Voilà donc la clé du succès, David. Pendant qu'on était occupé à draguer la vendeuse de chouchous en espérant la convaincre d'aller boire des verres dans une discothèque qui s'appelait certainement le Dark Side ou le Cosmos, Musso, lui, moins con, lisait dans la bibliothèque de Moment. Moment Musso, à qui il doit aussi cette fibre populaire, puisque c'est elle qui l'a incité à lire autant Tolstoï et Zola que Lucky Luke et Barjavel. Mais de lecteur à auteur, il y a un pas que certains ne franchissent jamais, et c'est donc en classe qu'adviendra ce que les fans de Musso qualifieront de déclic et ses détracteurs de passage à l'acte. Tout bascule le jour où son prof de français, qui veut certainement se la jouer Robin Williams dans le cercle des poètes disparus, décide d'organiser un concours de nouvelles. Guillaume a alors 15 ans et, bien évidemment, vous le sentez venir, il remporte le concours. Grisé par cette victoire, il commence alors à noircir des dizaines de carnets. Il écrit sans relâche, à s'en démonter le poignet. Sa mère Paulette témoigne.
Il secouait son stylo, il en mettait absolument partout. Il en mettait sur sa table, sur les fauteuils, sur les coussins, sur ses pantalons.
Oui, merci Paulette, on a compris l'idée. Guillaume est un adolescent qui, comme David et moi, a beaucoup musclé son poignet, mais à l'évidence, pas pour les mêmes raisons. Vous lisez Musso et vous trouvez qu'il parle des États-Unis avec beaucoup de réalisme, Stéphane. C'est normal, car à 19 ans, Guigui s'envole pour New York. Il y exerce la belle profession de vendeur de crème glacée. Mais hélas, son anglais approximatif lui vaut quelques démêlés avec des clientes lorsqu'il leur demande « Hi girls, how many balls do you want? 2 balls ?» Il revient en France, passe son CAPES de sciences économiques et sociales et devient alors prof pendant près de 10 ans en lycée. Si l'histoire s'arrêtait là, ça serait con, mais non. Car en parallèle, Guillaume écrit toujours et publie même en 2001 son premier roman, Skidamarink, un thriller façon jeu de piste démarrant par le vol de la Joconde.
C'est un succès.
Et non, c'est un bide, Stéphane. Retour polycopié, mais pas longtemps, car la deuxième tentative sera la bonne. Et après, son roman suivant sera son premier best-seller, un récit qu'il a concocté en s'inspirant de sa propre histoire. En effet, après un terrible accident de voiture où il aurait percuté un gros sanglier...
J'ai vu une grosse bête.
Il imagine l'histoire d'un enfant ressuscité, ça devient donc, et après, un best-seller traduit dans une vingtaine de langues et adapté au cinéma. Mais, prudent, Guillaume ne démissionne toujours pas de l'éducation nationale. Jusqu'en 2008, il continue d'enseigner, ce qui à la fin n'était pourtant pas simple. Des élèves venaient me demander des autographes, soupire-t-il, gêné. On imagine les jalousies en salle des profs. Lui signant des autographes, ses collègues ne récoltant eux que des phallus gravés au compas sur leur bureau. Bonjour l'ambiance. Et puis Guillaume, qui a vraiment ce côté premier de la classe, veut absolument pas négliger ses cours. Donc il écrit 6 heures par jour, il fait des nuits blanches pour corriger les copies. Alors en 2008, pour éviter le burn-out, il renonce à enseigner. Adieu, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur le millionnaire. Et oui, car Musso, hein, pour Musso, les best-sellers vont s'enchaîner à partir de là. Sauve-moi, je reviens te chercher demain, pour n'en citer que quelques-uns. En 2018, il vend 555 000 exemplaires de son roman La jeune fille et la nuit. Un record assez épatant, puisque c'est 100 000 de plus que le sulfureux best-seller de Stéphane, 50 nuances de Berne.
J'essaye de vous aimer moins, je ne peux pas. Je me sens refleurir comme un vieux chardon desséché.
À chaque livre, Musso semble conquérir de nouveaux lecteurs et peu à peu, même les critiques retournent leur veste, trouvant finalement qu'il écrit pas si mal et saluant son talent de conteur. Certains critiques font même plus que retourner leur veste, ils tombent amoureux de Musso. J'aimerais vous lire ces quelques lignes du Parisien, un portrait daté de 2018. On peut remettre la même musique érotique que pour 50 nuances de Berne. On n'avait jamais vraiment remarqué que Guillaume Musso avait à ce point les yeux bleus acier. En ce début d'après-midi ensoleillé d'avril, il a sorti une veste de belle coupe qui en rehausse la couleur. Et s'il y a de l'acier dans les yeux de ce natif des Gémeaux, quelque chose de l'enfance calme, protégée, n'a pas quitté son visage. Ok les gars, prenez un hôtel direct. Oui Stéphane, Musso est devenu un écrivain sexy. Vous qui l'appeliez il y a encore quelques années, assez méchamment d'ailleurs.
Le bibin d'homme.
Il est désormais gosbeau de l'édition. Son caprice de star, une Porsche, une île privée, des prostituées ukrainiennes. Non, son achat le plus fou, c'est une machine à écrire datant de 1929. Le même modèle que celui sur lequel écrivait Ernest Hemingway.
Incroyable.
Je sais que vous auriez pris les putes Stéphane, mais Guillaume lui est très content de sa machine à écrire et c'est probablement sur cette dernière qu'il a écrit cette phrase très juste que pour le coup j'aime beaucoup et qui est destinée à tous ceux qui rêvent de rencontrer, vous savez, l'auteur d'un livre qu'ils ont aimé. Je cite cette phrase de Musso, c'est très juste. Vouloir rencontrer un écrivain parce qu'on aime son livre, c'est comme vouloir rencontrer un canard parce qu'on aime le foie gras. Voilà, donc ça résume assez bien. Comme citation pour conclure ma chronique, j'avais soit ça, soit un extrait d'une dictée du prof de français de David.
Éric baissa la culotte d'Alexia. Éric baissa la culotte d'Alexia. Alexia, virgule, cette chaudière.
J'ai préféré finir sur le canard. Vous aviez de drôles de profs.
Oui, vous avez eu raison, Mathieu. C'était plus prudent. On a eu l'autre. Oui.
Il est très sympathique, ce Guillaume Musso.
Très sympathique.
En fait, on a du mal à dire du mal de lui.
Mais on n'a aucune raison de lui.
Non, mais on peut ne pas apprécier forcément ses romans. Mais en revanche, lui, il est vraiment sympathique.
Oui,
et il ne se prend pas au sérieux.
Oui, exactement. Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.